Hop, l'enregistrement est lancé, ça commence. C'est le Radio Médium numéro 33 et nous sommes le 11 mai 2015. Vous écoutez Radio Diwa sur le 107.5 ou vous nous écoutez peut-être sur internet rdwa.fr. En tout cas, vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres émissions de Radio Médium ainsi que toutes les autres émissions de Radio Diwa sur rdwa.fr. Bonjour Latika.
Bonjour Aline.
Bonjour Meysoun.
Bonjour Aline, bonjour Latika.
Alors j'aimerais commencer par une petite annonce pour l'émission de lundi prochain où nous aborderons des pistes pour sortir de la déprime ou ne pas y tomber, point d'interrogation. Et donc voilà, si vous avez envie de témoigner, de venir, ce sera une émission en direct comme celle-ci, eh bien vous êtes bienvenus à partir de 10h du matin. Pour mettre en place cette émission de lundi prochain, ou me contacter, ou contacter Liliane Redon d'ici lundi prochain pour participer à cette émission de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, c'est Meysoun qui va nous parler de constellation familiale. Voilà. Alors, même si tu es dans le Diwa depuis 10 ans, est-ce que tu voudrais quand même te présenter un petit peu, Meysoun?
Donc, oui, en effet, ça fait 10 ans maintenant que j'habite dans le Diwa. Je propose depuis quelque temps des ateliers de constellation familiale à Die. Et je suis en formation avec Éric Laudière, qui lui-même aussi propose des constellations familiales un peu partout en France. Voilà.
Merci Meysoun pour ta présentation. Et tu proposes donc des constellations familiales à Die également.
C'est ce que je disais, ouais. Adi.
Et donc c'est quelque chose qui t'intéresse depuis que tu as commencé cette formation ou tu as l'impression que
Ça fait longtemps en fait que je touche à l'histoire familiale, si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai, il y a plus de 10 ans, rencontré Alexandro Jodorowsky par l'intermédiaire en fait du tarot de Marseille. Et avec l'apprentissage du tarot de Marseille, en fait, nous sommes arrivés à l'histoire familiale. Voilà, donc ça fait au moins plus de 10 ans que je suis dans ces histoires familiales et l'influence que notre famille a sur nous, sur notre comportement, sur notre psychologie. Voilà, tout à l'heure, Aline, tu parlais comment sortir de la déprime. Les constellations familiales, en tout cas, sont une très bonne technique pour... sortir de la déprime.
Et donc oui, Éric Laudière, avec qui tu t'es formé aux constellations familiales, lui-même a été formé par Alexandro Jodorowsky. Voilà le lien. Et toi, tu as bien connu aussi Alexandro Jodorowsky.
Bien connu, on ne peut pas vraiment dire ça. Disons que je l'ai rencontré à plusieurs reprises à Paris. Il faisait des conférences très spectaculaires, avec entre autres des constellations familiales à sa façon dans ses conférences. Il tirait le tarot aussi donc dans un café où chacun pouvait venir et observer sa façon, sa méthode de tirage du tarot. Voilà, il a fait plusieurs
choses. Il travaille avec les actes psychomagiques, des choses très concrètes.
Il a écrit plein de livres très intéressants, dont un qui s'appelle Je me souviens plus. Bon, ça m'en reviendra.
Et puis aussi des bandes dessinées. Mais on ne va pas parler de bandes dessinées aujourd'hui, peut-être.
Transgénérationnelle. Un livre sur la psychogénéalogie. Transgénéalogie, peut-être. Je ne sais plus.
Eh bien, écoute, si tu veux bien, on mettra en référence la page internet de l'émission.
Mais ça va me revenir.
On mettra cette référence bibliographique.
Oui, tout à fait. Donc Meysoun, tu voudrais nous parler des constellations familiales, mais tu as prévu avant ça de nous expliquer d'abord qu'est-ce que la généalogie?
Bah oui, parce qu'on peut difficilement parler... C'est fini là, on m'entend pas.
Si, en fait on t'entend mieux.
Ok, parce qu'on peut difficilement parler des constellations familiales sans aborder la généalogie et l'histoire familiale. Et donc la psychogénéalogie, c'est-à-dire l'étude psychologique de notre histoire familiale. Donc je me suis amusée à faire un... Donc déjà, qu'est-ce que sont les constellations familiales, hein, pour un peu préciser mieux ce terme de constellation. Il s'agit d'une thérapie de groupe qui va se jouer par l'intermédiaire de jeux de rôle. Et donc, par l'intermédiaire de ces jeux de rôle, va se rejouer des relations conscientes ou inconscientes des membres de cette même famille. Donc, il est question de prendre conscience en fait des nœuds relationnels et en quelque sorte de se libérer de tous les impacts négatifs que notre système familial a projeté sur nous. Voilà. Donc, la psychogénéalogie, elle va évidemment être comme une trame pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe dans l'histoire familiale et qu'est-ce qui se passe surtout au niveau psychologique, parce que ça va atteindre d'ailleurs aussi notre santé, hein, puisque la psychologie est liée à notre santé, nos états d'âme, etc. Alors, je me suis amusée à faire un petit calcul. Et donc, sur 4 générations, on peut voir que, comme on a tous 2 parents, un papa, une maman, un homme et une femme, sur 4 générations, déjà, on est rendu à 15 individus, ce qui est quand même pas mal en se comptant soi-même. Et j'ai fait un autre calcul un peu plus intéressant, parce que sur 15 générations, là, ça donne un chiffre assez incroyable, qui est de 32 767 individus. Donc, 15 générations, ça nous ramène à peu près en l'an 500, en l'an 600. Donc, on peut imaginer le nombre de variétés, de rencontres, d'alliances, d'histoires, d'amour qui finissent bien ou qui finissent mal, par lesquelles nous sommes finalement passés, puisque nous sommes là de par ces alliances-là, de par ces coïts, si je puis dire. Donc, c'est quand même pas rien. Ça peut même nous donner une sorte de tournis quand on essaye d'imaginer jusqu'où, au plus loin, on a pu aller dans l'origine, en fait, hein, de notre arbre généalogique. Là où il va, c'est presque inimaginable. On ne sait pas.
Mais ce qui, qu'on a peut-être tous et toutes les mêmes parents à un certain moment, quoi.
Car on peut imaginer que si on remonte, la Bible, en tout cas, dit.
En tout cas, mais pas forcément deux, mais que tout le monde, si on remonte comme tu le fais à travers l'histoire, peut-être que quand on arrive à l'an zéro, on a autant de parents qu'il y avait d'habitants sur la Terre et d'habitantes sur la Terre à ce moment-là.
Mm-hmm. Oui, oui. La Bible, lui, parle du couple fondateur, Adam et Ève. Évidemment, c'est une histoire qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Hein. Après, il y a eu plusieurs explications dans tous les pays, dans toutes les cultures. Il y a des explications qui vont parler de notre origine, des petites histoires, des contes, des mythes, des religions. Hein. Bon. Mais là, on va se perdre si on commence à parler trop.
Là, on est dans la généalogie, mais voilà. Oui.
Voilà. Donc, en fait, cette généalogie, elle vient vraiment parler de la parenté, de la filiation, et elle vient soulever la question existentielle universelle, à savoir quelles sont nos origines, hein, comme on l'a dit plus tôt. Alors, l'étymologie du mot ancêtre, quand même, il faut le savoir, c'est antécesseur, ça veut dire éclaireur. Et je trouve ça pas mal parce que, en fait, ça parle bien de... Ça corrobore à l'analyse transgénérationnelle. Ils sont là pour nous éclairer, d'une certaine façon. Voilà. Donc, dans les constellations familiales, on va travailler avec notre arbre généalogique. On peut aller... Il est des fois bon de connaître à peu près, on va dire, l'histoire de notre famille jusqu'aux arrière-grands-parents. Mais parfois, on n'en a pas la possibilité et ce n'est pas grave. On peut parfaitement venir à une constellation familiale et puis ne connaître que ses parents, peut-être ses grands-parents, et pas beaucoup plus de choses. Parce qu'on va voir que par l'intermédiaire des jeux de rôle, et ça j'expliquerai plus tard, il y a quand même l'histoire familiale va ressortir. Hein. Donc le terme psychogénéalogie, c'est un terme qui est né d'une femme qui s'appelle Anne Ancelin Schusenberger, qui est toujours, parce qu'elle a 96 ans, elle est encore en vie. Et en fait, elle a écrit plusieurs bouquins sur la psychogénéalogie qui sont très sympas, dont un qui est très connu qui s'appelle Aïe mes aïeux. Je ne sais pas si ça...
On le mettra sur le site aussi, Aïe mes aïeux. Ouais.
Si vous l'avez lu. Il a eu beaucoup de succès, il est très simple à lire. Et donc il s'agit de l'étude, en fait c'est la résultante des études faites sur la psychologie humaine par tout un armada de psychologues et de scientifiques. Évidemment, c'est plusieurs années d'études pour arriver à cette concentration-là, à cette conclusion-là qui est la psychogénéalogie. Donc on va parler surtout dans la psychogénéalogie de transmission, hein, les fameux éclaireurs. Et dans cette transmission, il y en a plusieurs. Il y a la transmission la plus simple, c'est la transmission intergénérationnelle. Donc là, il s'agit d'une transmission entre personnes qui se connaissent. C'est la transmission directe. J'ai connu mon grand-père, transmission intergénérationnelle. Et après, on en a une qui est un peu plus subtile et un petit peu plus compliquée. C'est l'intertransgénérationnelle. Et là, ça va être les transmissions entre personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vues, peut-être même ils n'ont jamais entendu parler de cette personne. Donc là, on est dans un inconscient beaucoup plus profond, en fait. Dans les transmissions intergénérationnelles, donc entre personnes se connaissant, on est quand même influencé finalement par le transgénérationnel, parce que de toute façon, la relation que j'ai par exemple avec, la relation que je vais avoir avec mon enfant est liée aussi à une transmission qui s'est faite au niveau inconscient entre personnes de ma famille que je ne connais pas. C'est un peu subtil, mais on peut aussi le voir de cette façon-là. Donc dans les constellations familiales, on va beaucoup travailler dans le transgénérationnel, c'est-à-dire sous toutes ces transmissions, finalement, entre personnes qui ne se connaissent pas. On va voir donc qu'en fait, nos ancêtres, ils ne nous ont pas transmis que leurs chromosomes, hein, mais ils nous ont transmis des empreintes inconscientes, ils nous ont transmis des mémoires, ils nous ont transmis toutes sortes de choses qui vont agir sur notre personnalité, en fait, mais de façon très subtile. Alors, dans les constellations familiales, on va vraiment détecter, en fait, ces transmissions. Et on va les détecter aussi par un phénomène qui est celui de l'inconscient collectif. Parce que nous avons un inconscient personnel, donc c'est notre structure, unique. Nous sommes un être unique avec l'histoire d'un certain papa, certaines mamans. Ça va former notre inconscient. Mais il existe aussi donc un inconscient qui serait partagé de toute l'humanité, qu'on appelle l'inconscient collectif. C'est un espace en fait qui est commun à l'humanité entière, un inconscient universel. Il peut être partagé à toutes les époques, toute origine, on s'y retrouve. Tout comme on a un corps, on pourrait dire de bras, de jambes, on est tous faits de la même structure anatomique, ouais. Voilà, je cherchais mon terme, eh ben, on a tous aussi une même structure psychique commune. Et donc, par l'intermédiaire de cet inconscient collectif, va ressurgir ces transmissions étonnantes entre personnes qui ne se connaissent pas. Hein. J'en reviens encore à ces transmissions transgénérationnelles.
Mais alors là, pour le coup, qui sortent carrément du cadre de ce qu'on appelle famille, à moins qu'on élargisse le mot famille à l'humanité, comme dans le proverbe « ma famille, c'est l'humanité ».
Oui, là, après, on va être aussi avec on va trouver des symboles qui sont juste humains.
Et hein. Qu'on va utiliser dans les constellations familiales. Au sein des constellations, cet inconscient collectif, on peut aussi l'incarner, le...
En fait, il va se manifester, oui, parce que c'est un symbole, en fait. C'est comme une grande banque archéologique, psychologique de symboles, universels, humains, qui n'a pas de date, qui n'a pas de temps. C'est vraiment... c'est un phénomène assez étonnant que l'inconscient collectif. C'est Jung qui a fait naître, en fait, ce terme, cette notion. Et, par exemple, le plus grand symbole... qui peut être universel, celui du feu, celui de l'eau, tous les éléments. Bon, là, on va vraiment retrouver la même symbolique pour tous les humains, en fait.
Voilà.
Et donc, on va se rendre compte que le système familial aussi Et le même est identique pour toutes les familles et pour toutes les cultures, aussi étonnant que ça puisse paraître. L'inceste sera toujours l'inceste. Et même si pour, dans certaines tribus, et c'est assez rare d'ailleurs qu'il soit admis, hein, en général il est toujours faute, etc. Donc ça, ça fait partie de cette même règle. Là-dedans, on peut aller puiser dans l'inconscient collectif. Mmh. Ça, c'est vraiment un outil qui nous aide dans les constellations familiales. Mmh. Et ça peut aussi, il peut nous expliquer comment la magie opère. Parce qu'il y a quand même une magie qui va opérer. Ça, j'expliquerai plus tard comment ça va se dérouler. Mais bon, je vais essayer de faire quand même un peu rapide sur la psychogénéalogie, parce que sinon, on en a pour quand même pas mal de temps. Et puis, ce n'est pas non plus le propos de trop développer. Donc, en gros, je dirais qu'il y a un système de transmission, ça, on est d'accord, de génération entre génération, qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas. Dans ces transmissions, ça va s'organiser autour d'un réseau de communication. Nous sommes des êtres humains qui communiquons. La vie, nous ne pouvons vivre que parce que nous communiquons. Si on ne communique pas, on meurt. Et par l'intermédiaire de ces communications, il y a donc tout le jeu des interactions qui va venir. Nous sommes en interaction les uns avec les autres. Nous sommes liés, en fait. On n'est pas isolés dans un système familial. On est tous reliés les uns aux autres. Par exemple, et alors après on peut même aussi aller plus loin, et puis on peut dire qu'on est lié aussi de façon émotionnelle, on va dire psycho-affective. On va avoir une interdépendance émotionnelle avec les membres de notre famille. Si mon grand-père était anxieux, il se peut que ma mère, c'est pas sûr, mais il se peut que ma mère soit anxieuse, et il se peut que je sois anxieuse. Cette anxiété, elle est émotionnelle, et elle est transmise. Voilà, donc après, au sein même de ce système, il y a des forces qu'on appelle des forces de régularisation, régulatrices, c'est-à-dire qu'on va être dans une éthique relationnelle. On va communiquer, et dans cette communication, il y a des lois. Cette loi, c'est une forme d'éthique relationnelle. Et il va donc y avoir des répartitions des mérites. Des bénéfices, des obligations. C'est comme si, en fait, notre arbre généalogique y tenait un compte familial où on va dénombrer un livre de compte, où on va dénombrer les dettes. Les dettes où on va essayer de rétablir un certain équilibre entre le donner et le recevoir. Parce que qu'est-ce que c'est que la communication ? Qu'est-ce que c'est aussi donner, recevoir. Donc tout ça va être vraiment mis en jeu dans le système familial. Et ça va se voir comme, par exemple, ça va nous amener en fait à ce principe de loyauté. Dans ce système même, on va solliciter chez nous une fonction qui est innée, qui est celle du principe de loyauté, par exemple, et qui va être régie encore par ce fameux livre des comptes de notre histoire familiale. Exemple, si mon père et ouvrier, et que d'ailleurs mon grand-père l'est aussi, il se peut que moi j'ai du mal à sortir de cette caste sociale. Et donc je vais continuer à être dans ce milieu ouvrier, etc. Et en fait, est-ce que j'ai vraiment choisi ça ? Non, il se peut que ce soit aussi par loyauté que je reste dans ce système-là, en fait. Donc en fait, la loyauté, quelque part, elle va nous mettre dans une situation de non-choix de notre vie. Ça se passe à un niveau vraiment inconscient, mais on ne va pas tout à fait choisir. Alors après, il y a plusieurs sortes, hein, de répétitions de loyauté. Il y a celle par opposition, par exemple, si mes parents habitent tous dans une circonférence de 20 km, si moi, on a toujours mis ce rôle de rebelle, ben je vais pour être loyale au rôle qu'on m'a donné, je vais habiter à l'étranger, par exemple. Mais est-ce que je suis vraiment libre dans cette histoire-là ? Est-ce que c'est vraiment moi qui choisis d'aller à l'étranger ? Ou est-ce que je veux juste être loyale face au rôle que m'a donné ma famille ?
Hein ? et que la constellation peut permettre de révéler ça.
Tout à fait. C'est vraiment le terrain où va être révélée toutes ces formes de petites emprises, si je puis dire. Hein. Mmh. Voilà. Donc, il y a aussi un autre truc qu'on trouve dans l'organisation de ce système. C'est ce qu'on appelle l'empreinte du non résolu. On a découvert que, bah d'ailleurs, mon fils, il est comme ça. Il va apprendre une leçon pour l'école, une leçon en maths. Un truc un peu qu'il doit connaître par cœur. Il va bien s'en souvenir. Il va, tac, dès qu'il va l'avoir mis sur papier, il aura rendu son devoir, il aura sa note. On peut être sûr que pour les leçons d'après, des fois, il va plus s'en souvenir. C'est résolu. La note est bonne. Ça a été fait. Maintenant, j'oublie. Bon, ça, c'est dommage parce que ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais bon, on ne va pas remettre en question l'éducation nationale maintenant. Mais le système de notes, des fois, finalement, c'est pas très pratique parce que voilà. Bref. Et ou alors, on peut voir l'exemple du garçon de café. Hop, il a sa liste qu'il doit amener à la table. Tant qu'il n'aura pas servi sa liste, il ne va pas l'oublier. Dès qu'il va avoir servi la liste, ça va partir de sa mémoire. Eh bien, au sein de notre système familial, il y a exactement le même comportement psychologique, en fait. Le même phénomène au niveau psychologique. C'est-à-dire que si un ancêtre n'a pas pu résoudre une histoire, je vais me sentir impliquée, alors que je ne la connais pas, cette histoire. Hein. On est dans le transgénérationnel. Hein. Ça se passe entre générations et individus d'une même famille, mais qui ne se connaissent pas. Il se peut que je sois amenée à résoudre ce qu'il n'a pas pu résoudre. Ou s'il lui a manqué du temps pour résoudre quelque chose. Souvent, c'est des histoires de deuil. Mes ancêtres ont eu un enfant, par exemple, décédé. Un autre enfant est arrivé après très rapidement. Le deuil n'a pas été fait pour diverses raisons. On va retrouver chez les descendants un autre enfant qui va peut-être mourir dans des façons similaires. Pour que cette fois-ci, le deuil soit vécu pleinement. Ça peut être pareil aussi dans les histoires qui ont été arrêtées. Dans les séparations, il y a eu exil, par exemple. Imaginons exil dans mon arbre généalogique. Plusieurs générations par la suite, on peut retrouver des cas de problèmes avec le logement, problèmes de territoire, prison, pourquoi pas. Enfin, après, hein, l'inconscient, il a toutes sortes de péripéties pour arriver à traduire ce qui doit être résolu. Hein. Mmh. À montrer du doigt, en fait. On est dans un imaginaire avec l'inconscient qui n'a pas de limite, en plus. Donc, voilà. Il y a un autre truc que je peux parler. J'appelle ça un truc. C'est un peu la cerise sur le gâteau du système familial. C'est les fameux secrets de famille. Et ça, on va appeler, dans les termes de psychogénéalogie, on appelle ça le fantôme transgénérationnel. Alors, c'est pas un fantôme comme on en voit dans les films d'horreur qui viennent nous hanter dans la nuit, etc., et voyager dans la maison sous drap blanc. Non, c'est plutôt comme une trace, en fait, psychologique qui va se retrouver dans les générations actuelles, alors que cette trace est née d'une génération lointaine. Et souvent, c'est une trace, on va dire, d'un secret inavouable. C'est souvent en rapport avec des choses qui ont été, qui sont pas avouables, en fait.
Et le secret va réapparaître, va être mis à jour dans une génération d'après, c'est ça ?
Voilà. Alors, il va être mis en, il va être soulevé, mais de façon subtile, parce que bon, alors souvent ce sont des non-dits, en fait. Une personne a vécu quelque chose de très grave et elle l'a tue. Souvent, ça peut être lié soit à la mort ou au sexe. Hein. C'est souvent ces thèmes-là. Ça va être de l'inceste, ça va être des crimes, ou alors ça peut être des enfants illégitimes, des choses comme ça. Donc, le traumatisme a été tué, mais dans l'inconscient de la famille, ce traumatisme, il a une empreinte. Et donc, il va revenir dans les générations descendantes. Alors souvent, ça donne des cas comme des pathologies obsessionnelles ou phobiques. Il y a un cas, d'ailleurs, qui est donné parce que les personnes qui ont mis à jour ce phénomène de fantôme générationnel, c'est, ils ont étudié plusieurs cas. Il y en avait un où c'était un homme qui était obsédé par la géobiologie. Alors, dès que c'était les week-ends, au grand dépens de sa famille, il s'amusait à casser des cailloux, géobiologie, et il s'amusait à asphyxier des papillons. Ça a un nom, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, l'entomologie. Et donc, mais ça de façon tout à fait obsessionnelle et donc problématique dans sa vie. Hein. Et donc, au fur et à mesure de la psychanalyse qu'il va faire donc avec ces deux psychologues qui sont Maria Torok et Nicolas Abraham, c'est un couple psychologue qui ont découvert plein de choses sur le transgénérationnel. Eh bien, au cours de cette thérapie, ils vont se rendre compte que la grand-mère de cette personne avait dénoncé un membre de la famille, qui ce membre de la famille a été emprisonné, mis aux travaux de force, il a cassé des cailloux, et avant de mourir dans les chambres à gaz. Donc en fait, il était en train, de façon obsessionnelle, de répéter avec la folie du langage de l'inconscient ce qui n'avait pas été dit, à savoir ce secret honteux d'une dénonciation d'une grand-mère sur un membre de la famille jusqu'à ce que cette personne meure, etc. Mmh. Donc c'est pour vous donner un peu une idée en fait de l'impact qu'ont l'acte de nos ancêtres sur nous en fait, mmh. hein, et comment ça peut être vécu. On peut faire une petite pause.
Alors oui, Isoun, tu nous as proposé une musique et là on va écouter Père et mère, c'est ça, de Un voilà. grand corps malade.
Oui, parce qu'on ouais. parlait au début de toutes ces histoires qui d'un homme, de rencontres entre un homme et une femme qui ont fait que nous sommes ici aujourd'hui. On a vu qu'il y avait un nombre certainement inchiffrable, en fait.
Et immense.
Immense. Ouais. Et je trouve que ce qu'il dit... reflète pas mal toutes ces variétés possibles de parents.
Eh bien, on se retrouve dans moins de 3 minutes.
Depuis la nuit des temps, l'histoire des pères et des mères prospère. Sans sommaire et sans faire d'impair, j'énumère pêle-mêle, père-mère. Il y a des pères détestables et des mères héroïques. Il y a des pères exemplaires et des mères diques. Il y a les mères un peu pères et les pères mamans. Il y a les pères intérimaires et les permanents. Il y a les pères imaginaires, les pères fictions, et puis les pères qui coopèrent à la perfection. Il y a les pères sévères et les mères senaires, les mères qui interdisent et les pères missions. Il y a des pères nuls et des mères extra, or 10 mères ne valent pas un père, même si 10 pères sans mère sont du père, c'est clair. Il y a des pères et des beaux-pères comme des compères qui coopèrent, oubliant les commères et les langues de vipères. Il y a les re-mères qui cherchent des repères, refusant les pépères amorphes, mais les pauvres se récupèrent les experts du divorce. Il y a les pères outre-mer qui foutent les glandes à ma mère, les pères primaires, les pères fides, les personnels qui ont le mal de mer, ceux qui laissent les mères vexes et les pères plexes. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère, pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a une mère candide et un père aimable, il y a une mère rigide et un père méable, il y a des pères absents et des mères usées, il y a des mères présentes et des pères fusées. Il y a des mères choyées et des mères aimées, il y a des pères fuyants et des pères aimés. Il y a la mère intéressée, la mère vile, l'argent du père en péril face à la mère cantile. Il y a les pensions alimentaires, les pères crédits, les pères du week-end et des mères crudits. Il y a des pères hyper forts et des mères qui positives, ou les coups de blouse qui perforent les mères sans perspective. Mais si les pères s'écutaient, le père sait quitter, et si la mère pleure, c'est l'enfant qui perd. Mais si la mère tue, la mère tume, la magie s'éveille, et au final, qu'elle soit jeune ou vieille, la mère veille. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair, et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère, pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a les mères qui désespèrent à cause des amourettes, perpétuellement à la recherche d'un homme à perpète. Il y a la mère célibataire persuadée de n'être personne et qui attend dans ses chimères que derrière la porte un père sonne. Il y a les mères soumises et les pères pulsions. Il y a les mères battues et les percussions. Il y a les mères en galère à cause des pères verts, des perturbés. Alors il y a la mère qui se casse si elle est perspicace. En revanche, si le père et la mère s'acoquinent et vont se faire mettre, si je peux me permettre, la tension est à 10 000 ampères. Car quand le père est en mer et que la mère obtempère, c'est la hausse du mercure, car le père percute et la mère permute. Le père tend sa perche et la mère se rit de cette performance de ce perforant impertinent. Telles sont les péripéties du père dur face à l'effet mère. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair et à la fin de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère, pour dire à ma mère et à mon père, merci.
Merci.
Merci, un morceau très très lié à notre thématique. Très
oui,
parlant.
Bon, là on est plus dans justement l'intergénérationnel, à savoir la relation directe entre père, mère, enfant, évidemment.
On est aussi dans le jeu de mots qui a aussi à voir avec l'inconscient et
oui.
Pourquoi pas collectif.
Ouais. Non, il est très bon ce texte.
On avait fini, avant cette musique, en fait, la partie psychogénéalogie et généalogie.
Voilà, le côté un peu théorique.
Bon, donc on se retrouve toujours pour parler des constellations familiales avec Meisoun sur Radio Diwa. Et là, alors, quelle est la suite
on
du programme les constellations familiales par elles-mêmes, tu as évoqué plusieurs fois au cours de ton exposé. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai l'impression.
Voilà, savoir plus précisément comment se déroulent les constellations familiales et comment ces thématiques-là dont tu nous as parlé tout à l'heure, elles interviennent.
Alors, donc, on est en groupe, comme je disais au début. La personne qui va être constellée, on dit donc constellée quand la personne va mettre en scène son propre système familial, son histoire familiale. Donc, la personne va déjà avoir une demande, parce que si elle vient là, c'est parce qu'elle a une demande, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et qu'elle aimerait résoudre, et elle s'est dit que peut-être, par l'intermédiaire de l'histoire familiale, elle pourrait résoudre son problème. Donc, elle fait cette demande. À partir du moment où la demande elle est faite, alors le constelleur, donc la personne qui va animer la constellation, va faire une sorte de, on peut appeler ça de casting. Il va sentir un petit peu qu'est-ce qui se trame derrière cette demande, évidemment. Il y a tout un feeling un peu thérapeutique, je dirais, qui va se mettre en place. Et il va demander au constellé de choisir tel personnage de sa famille. Ça peut être son père, sa mère, ses oncles, ses arrière-grands-pères, je ne sais pas. Ça dépendra de sa demande et de comment tout cela va se dérouler. Ou peut-être choisi aussi des concepts. Ça peut être le temps, la séparation, je ne sais pas, toutes sortes de choses. Et voilà, et donc ça part comme ça. Donc les personnes qui auront été choisies pour jouer les rôles vont se mettre dans ce qu'on appelle un espace qu'on peut déterminer comme étant un champ. Il est question d'énergie aussi. Avec tout ce qu'on a vu, avec l'inconscient collectif, avec l'histoire familiale, tout ça, ça commence à se mettre en forme. Et donc là, on va passer à la phase des relations, des interactions. Qui se sent en lien avec qui, comment se passe la relation, etc. Les relations vont être rejouées, on va interroger chacun sur ses sensations. On va plus être dans le corporel.
Les personnes, en fait, se déplacent physiquement.
Oui.
Et se placent.
Il y a plusieurs techniques.
Dans l'espace.
Oui, il y a plusieurs techniques. Celle que j'ai apprise, qui est donc celle d'Éric Lodière, entre autres. Oui, les personnages vont se déplacer dans l'espace. Chez Bertellinger, ça peut être plus stable. Les gens vont être... Déjà, le constellé ne va pas jouer son propre rôle. Il va choisir un représentant. Là, chez nous, bon, ça peut arriver qu'on fasse comme ça aussi, mais c'est pas une règle générale. On va dire, en général, le constellé va jouer son propre rôle. Donc tu disais, excuse-moi, Latika.
Je disais simplement que c'est très concret, que les personnes se placent dans l'espace.
Voilà.
Et que là, tout de suite, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau des interactions entre les personnes,
oui,
selon leur placement.
Oui, déjà, selon leur position corporelle.
Leurs sentiments aussi.
Elles vont être interrogées sur leurs sensations. Mm-hmm. On va essayer un maximum de les déconnecter de l'intellect et du mental. Hein, parce mm-hmm. que si on est dans l'histoire familiale, on peut très vite dans le reproche. Oui, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Non. On va vraiment aller dans l'écoute du corps. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là, avec cette situation-là, dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens, etc. Donc là, ça, c'est vraiment l'outil, le corps, parce que finalement, les mémoires sont dans notre corps. Hein. Donc, c'est un bon moyen d'interroger l'histoire à vivre de cette famille précise.
Et alors, comment... parce que chacune des acteurs, actrices... sa propre famille, et comment savoir si ce qui intervient dans le placement, c'est comment se connecter. Il doit y avoir des techniques pour dire ok, en fait, on est dans la famille qu'on étudie,
oui,
et pas dans
alors
votre
déjà,
propre famille.
Dans la distribution, c'est vrai qu'il peut y avoir une confusion, mais dans la distribution des rôles, il y a quelque chose de très clair, c'est que on prend vraiment le nom de la personne qu'on incarne. Si on joue l'arrière-grand-mère du constellé et qu'elle s'appelait Odette, je ne vais plus être Messoun, je veux vraiment être Odette. Et ça, c'est dit clairement. Et comme par magie, ça se fait et ça se vit dans le champ. Il arrive, c'est plutôt rare, et il arrive en effet que des gens vont confondre leur histoire avec celle d'Odette, pour reprendre l'exemple d'Odette. Mais parce que non plus, il n'y a pas de hasard. Quand on est choisi pour un rôle...
On a le choix de le faire ou pas, d'ailleurs.
Déjà, on a le choix de le faire ou pas, évidemment, c'est pas du tout obligatoire. On peut être que spectateur dans cette histoire des constellations familiales. Mais si on a été choisi pour jouer cette grand-mère Odette, je sais plus si elle était arrière ou grand-mère, eh ben, c'est pas un hasard. Quelque part, ça va venir réveiller notre propre histoire sur un endroit. Je dis pas que c'est toute la vie d'Odette qui va être identique à la mienne, mais un aspect psychologique non résolu de moi qui va se jouer à travers Odette. C'est émotionnel, ça se sent dans le corps, ça se sent vraiment de façon... Et après, donc, ça va amener à un déroulement.
Et ça fonctionne parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'universel,
oui,
dans tout ce qui se passe,
voilà,
là. Quoi.
Nous avons... un système familial, ce système familial, il est universel dans l'humanité, dans notre humanité. Parce que les animaux vont avoir leur propre système familial. Qui d'ailleurs, souvent, on peut le comparer, pour certains animaux, on peut comparer leur système au nôtre. On a des aspects identiques, mais l'humain, ça reste l'humain.
Et donc, pour un exemple concret, tu parlais tout à l'heure de cette transmission inter- et transgénérationnelle. Donc, la transmission intergénérationnelle, c'est assez clair, parce que c'est des personnes connues qui vont pouvoir être incarnées par des rôles. Mais comment ça va se manifester, le transgénérationnel, dans les constellations ?
De la même façon, en fait. Si je joue... ce qui est intéressant dans les constellations, c'est qu'il n'y a plus de temps. Le temps n'existe plus, puisque les morts sont présents. Parfois même des aspects, dans les aspects il y a des aspects futurs, par exemple l'enfant à venir, je ne sais pas moi, ou un travail, je cherche un travail, mon travail futur, etc. Donc il n'y a plus de temps, on se balade vraiment dans l'intemporel. Et de la même façon, donc, avec des personnes que l'on n'a pas connues, il va se révéler des indications, et toujours par le même chemin qui est celui du corps et du ressenti.
Et là, d'autres personnes vont pouvoir prendre des rôles au fur et à mesure de la constellation, au fur et à mesure que des choses émergent.
Oui, alors non, en général, quand les rôles sont déterminés au début, on va rester dans ce même rôle. On a le même rôle du début jusqu'à la fin de la constellation.
Je veux dire avec d'autres personnes, en fait.
On peut...
D'autres éléments qui pourraient s'ajouter.
Oui, oui, oui. Y a une histoire se trame, en fait. on a vu dans la psychogénéalogie qu'il y avait tout un système. Eh bien, en fait, on va voir comment ce système il va se reproduire. Comment je vais tout d'un coup me sentir complètement, par exemple, attachée à mon arrière-grand-mère, alors que je ne l'ai jamais connue. Peut-être elle porte le même prénom que moi aussi, ça va nous donner un indice. Peut-être elle sera née à la même date, peut-être, je ne sais pas, il y a plein d'exemples possibles. Ou alors, tout simplement, on va voir que la personne est complètement aspirée, le constellé est complètement aspiré par cette arrière-arrière-grand-mère qu'il n'a jamais connue. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre à plat cette relation-là avec tout le mystère transgénérationnel, puisqu'elle ne l'aura pas connue. Et pourtant, on va voir comment elle est influencée par cette personne. Mmh. Et donc là, après, il s'agit de remettre chacun à sa place. Parce que ça, c'est un aspect aussi que je n'ai pas parlé, que c'est dans les constellations. Mmh. On va vraiment... dans cette réparation qui se passe en mouvement, on va pacifier les relations, on va régler tous les problèmes qui sont liés à l'appartenance, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune exclusion possible, parce que chaque exclusion, on a bien vu, hein, va revenir en fantôme dans les générations d'après. Donc, puisque tout trauma, toute blessure va réapparaître. Hein, donc mieux vaut régler ça dans les constellations. Donc s'il y a une personne exclue, la réintroduire dans le système familial. On va aussi régler tous les problèmes qui sont liés à l'antériorité, à savoir que nous avons chacun une place bien définie. Je suis la fille de ma mère, je ne suis pas sa mère. C'est pas toujours très clair. Des fois, on peut voir dans un système familial qu'on joue des rôles qui sont pas les nôtres. Hein. Donc chacun a bien sa place. Et puis aussi, donc, va être mis en lumière les non-dits, les secrets familiaux, enfin, toutes sortes de phénomènes qu'on a vus dans la psychogénéalogie.
Donc là, c'est vraiment toi, en l'occurrence, enfin, celui qui guide la constellation, qui va guider vers ces, comment tu pourrais appeler ça, des guérisons ou des résolutions ?
Oui, alors, en vérité, le constelleur, donc la personne qui anime la constellation, il fait pas grand-chose. En fait, c'est beaucoup le système qui fait, hein, qui trame son histoire. Après, quand on voit là, quand on connaît les règles du système, ben, en tant que thérapeute, on peut dire, ben non, là, c'est pas possible. Remettons les choses à leur place. Mmh. Tu es la fille de ta mère, tu n'es pas sa mère. Mmh. Des choses aussi simples. Hein. Mmh. Et puis ça peut être, voilà, il y a ce secret, mettons-le en lumière, que tout le monde puisse le voir, que tout le monde puisse le digérer quelque part. Hein. Que tout le monde puisse le résoudre. Alors on va remarquer aussi d'ailleurs dans les constellations que ça va toucher, ça va faire du bien à la personne qui est constellée. Ça va aussi faire du bien aux personnes qui jouent le rôle. Et ça va aussi faire du bien à tout le système familial de la personne qui est constellée. Des fois les gens rappellent une semaine après, incroyable, une personne de la famille que vraiment avec qui j'étais en désaccord, suite au travail qu'on a fait en constellation, il m'a téléphoné. Ça faisait juste 3 ans qu'il n'avait pas fait. Enfin, voilà, on peut constater des événements comme ça qui vont toucher toutes les personnes, tout le système familial en fait. Pas que la personne constellée. Puisqu'on part du principe que nous sommes tous liés. Et on part aussi de ce principe que si une personne, elle est mal... la résolution n'est pas qu'en elle, la résolution est dans le système. Hein. C'est ce que disait d'ailleurs Marx à propos de la politique. Il disait, le problème, ce n'est pas l'individu, c'est le système politique. Là, c'est pareil au niveau familial. Si je suis mal, il y a de fortes raisons, fortes chances que je sois mal suite à ce réseau de communication familiale. On a notre responsabilité aussi dedans, hein. On n'est pas complètement bousculé, voyagé, comme ça, pris, chevauché par notre arbre généalogique. Mais on a une forte transmission quand même qui nous est donnée.
Oui, que mes malaises et mes maladies sont aussi des symptômes de ce qui se passe dans le groupe.
Dans les relations. Voilà. Tout est relation, en fait.
Mais alors, la famille, il n'y a pas que ça. Par exemple, je peux ne pas avoir de famille ou ne pas avoir connu ma famille biologique, même éventuellement avoir été élevé en foyer, ne pas avoir connu vraiment de système familial proprement dit, même si j'ai traversé des systèmes. Mmh. Et puis, je peux aussi être dans un petit village et puis venir... est-ce que je peux venir à une constellation familiale en disant, ce qui m'intéresse, là, c'est les relations dans le village, même si ma famille est dans le village, c'est un élément du village.
Tout
mais là,
à
c'est
fait.
Dans tout le village qu'il y a des trucs qui se passent, qui moi, me plaisent pas.
Complètement, c'est très intéressant.
Ou sur un chantier qui est en cours, par exemple. Est-ce que toi, tu as déjà eu affaire à ça ou est-ce que c'est...
Non,
ou est-ce que...
mais j'ai pas encore eu affaire, mais j'ai déjà assisté à des constellations qui parlaient d'un autre système que celui qui était le système familial. On s'est bien sûr amusé à faire des constellations de tout genre...
D'immeubles, par exemple.
Oui, quand on est dans un projet de créativité, on peut faire une constellation sur son projet créatif. Bon, je suis, par exemple, écrivain. Bon, j'ai plusieurs thèmes. J'hésite. Je vais choisir celui-ci, celui-ci. Chacun vont jouer des rôles. Je vais aussi mettre en rôle ma difficulté à écrire. Ma fatigue, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais j'habite avec des gens, je peux en effet reproduire, ou avec qui je travaille aussi, ça se fait beaucoup dans le coaching professionnel, de pouvoir justement remettre en scène les relations dans un système professionnel, dans un système de cohabitation.
Sachant que bien souvent c'est un reflet du système familial.
Oui, il y a beaucoup de concordance, on va dire.
Oui, savoir si c'est pas le système familial qui est un reflet de notre société
quand
aussi.
Quand on est au boulot, le premier système, c'est celui de la famille, puisque enfant, le premier système dans lequel on va naître, si je puis dire, on va venir au monde, le premier système, c'est celui de la famille. Donc après, on va découvrir d'autres systèmes, bien heureusement, on va pas rester enfermé toute notre vie dans notre famille. On va découvrir la société, elle a un système elle aussi, avec sa politique, etc. On va découvrir un monde même, avec plusieurs systèmes. Donc là, ça peut nous emmener très loin. Mais par exemple, pour reprendre quand même cette histoire de famille et de concordance, en fait, dans un milieu professionnel, notre patron, si on a eu un père autoritaire, le transfert, il est vite fait. En fait, c'est pas mon patron, c'est mon père. Et je vais me colter tout ce que j'ai pas résolu avec mon père, je vais le vivre avec mon patron. Je cohabite, il y a une personne avec qui je cohabite qui a un fort caractère. C'est tout ce que j'ai pas résolu avec le membre familial qui aura un fort caractère et qui me l'a bien fait ressentir va ressortir, etc.
Ou aussi un animal non humain, peut-être, dont on est proche ou avec qui on a affaire, peut être incarné lors d'une séance. J'ai une question aussi pour visualiser un peu. On est combien lors de ces séances, alors ?
Moi, j'ai vu des constellations familiales où il y avait 200 personnes. Mm-hmm. Ça, c'était avec Alexandre Jodorowsky. C'était très particulier. Avec Éric Laudière, je pense qu'on a été jusqu'à une quarantaine de personnes. On peut être vraiment nombreux dans les constellations familiales. Je dirais même que plus on est nombreux, et plus c'est fort.
Tu parlais plutôt de nombre minimal en dessous duquel
minimal,
ce n'est plus un groupe.
Moi, j'ai du mal à partir de... En dessous de 6, ça commence à devenir un peu compliqué, mais c'est possible. Mais plus on est nombreux, plus on peut faire intervenir des personnages, plus on est dans les relations, plus on va travailler la relation... Et plus on va trouver des choses.
Donc oyez, oyez, auditeurs, auditrices, alors que nous approchons de la fin de l'émission, que nous y sommes presque, il est possible de faire des constellations, de participer à ça, et c'est possible de participer même si on n'a pas soi-même envie de se mettre au centre de la constellation. Comme tu disais, on peut être spectateur, spectatrice, on peut aussi...
En tout cas, à 10, ça peut se faire comme ça. Parce que donc je propose déjà depuis quelques mois deux ateliers par mois de constellations familiales à participation libre. Là, à partir de septembre, ce sera qu'une après-midi par mois. Mais en effet, on peut venir être juste spectateur. En général, il y a des gens qui viennent pour être spectateurs et ils finissent par s'impliquer parce que on s'ennuie un peu si on s'implique pas. Et puis pour venir découvrir.
Et la prochaine est donc le 24 mai, dimanche 24 mai.
Donc la prochaine, c'est pas le dimanche qui vient, c'est le dimanche prochain. Et après, pour septembre, on saura les dates. Je n'ai pas encore prévu les dates, mais c'est ça. Je pense que ce sera toujours le dimanche après-midi.
Et on va laisser ton contact téléphonique sur le site, sur la page de Radio Médium, sur Radio Médium numéro 33.
Ok.
Tout à fait. Et donc voilà, on va finir par une musique que tu nous as apportée aussi. Et alors, ma tribu, ma famille du groupe La Tropa. On va écouter ça.
Eh bien, merci pour votre accueil.
Merci beaucoup, Messoun. Puis peut-être à une prochaine fois pour approfondir ce thème.
Avec plaisir.
Et en tout cas pour nous à Radio Médium, à lundi prochain avec la déprime, comment ne pas y tomber ou comment s'en sortir. Et vous êtes appelés à contribution. Voilà, prenez contact avec la radio, avec Liliane, avec moi-même pour participer à l'émission de lundi prochain. Au revoir.
Il est temps de partir. Adieu ma tribu, ma famille. Il est temps de partir. Adieu ma tribu, ma famille. 10 belles années se sont écoulées pour faire le tour de mes pensées. Les pieds sur terre, les poings en l'air, les idées justicières. La connaissance par l'aventure, l'expérience et ses mésaventures. Pas à pas la découverte, le chemin, l'inconnu vers l'inattendu. Il est temps de partir. Adieu ma tribu, ma famille. Il est temps de partir. Adieu ma tribu, ma famille. Un parcours plein d'embûches, des rencontres insolites, des naufrages si trépidants, des sauvetages émouvants. L'errance et l'espoir, la peur et cette belle insouciance. Ma tribu, ma famille. Il est temps de partir. Adieu ma tribu, ma famille. Aujourd'hui, je fais escale pour cet instant, pour cet instant seulement. Dans ma tête souffle le vent. C'est le silence radio.